De retour sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. On venait de le dire en direct toujours de ce festival Exquis numéro 3 à Valdrome, en compagnie de la compagnie Arbre Compagnie.
Ouais, c'est ça.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Vous êtes 4 et toi t'as pas de micro.
Oh,
bah voilà.
Tu vois. Allez, si. D'ailleurs, on va commencer par toi. Voilà.
Qui alors, moi je suis Angélique et je m'occupe de la communication, de la diffusion, un peu de production et la régie du spectacle.
Oh là là, ils ont un booker rodé.
Ouais, voilà.
On a un couteau suisse qui fait tout.
Ça c'est bien, donc ça veut dire qu'on en... Enfin, on en parlera plus tard. Tiens. Allez, là, après.
Moi je suis Vanessa, je suis comédienne dans Ernest ou Comment l'oublier et je suis aussi déléguée artistique de la... d'Arbre Compagnie.
Et moi, je suis Christophe et je me suis occupé de faire la mise en scène du spectacle. Voilà.
Moi, je suis Agnès, je suis comédienne sur Ernest et j'ai travaillé aussi beaucoup sur la scéno et tout ce qui est costume du spectacle.
Donc, comme tout à l'heure, on n'a que des compagnies ultra indépendantes qui fonctionnent avec tout leur matos en interne, leur metteur en scène, leur
voilà,
tout.
Autonome.
Autonome. Allez, présentez-nous un petit peu ce spectacle Ernest, ça me permettra d'en connaître un peu plus. Déjà, s'il y a deux femmes qui jouent, mais on attend Ernest. Moi, je m'attendais à ce que tu joues dedans, bah non.
Eh ben non.
Non, non. Donc,
eh ben
c'est
non.
Deux femmes qui.
Alors, attends, Ernest, c'est exactement Ernest. Ça.
Ouais, c'est ça. Mais Ernest, c'est ou comment l'oublier, c'est donc deux femmes, Yvonne et Marie-Louise, qui sont deux circassiennes. Une est funambule, l'autre est
trapéziste.
Et elles attendent donc Ernest, qui est le directeur du cirque, Ernesto, et qui un jour leur a dit, écoutez, voilà, restez ici, reposez-vous, je vais faire le tour du monde et je reviens vous chercher. Et donc ces deux femmes vivent dans une armoire, voilà, et attendent leur amoureux, Ernest.
Il faut dire qu'elles sont un peu âgées, ces deux femmes, hein. Ouais. Elles sont un peu usées.
Et elles savent toutes les deux qu'elles aiment le même homme ou...
Oui.
Oui, ça leur pose pas de problème, ouais. Et puis elle se chamaille un petit peu, voilà. Qui aime, voilà, Ernest.
Plus fort que l'autre.
Voilà, c'est ça. Il y a ce côté-là. Et il y a une particularité aussi, c'est qu'il y en a une qui, Yvonne, qui perd ses jambes, c'est-à-dire qu'elle tombe en permanence, et Marie-Louise perd la tête. Elle oublie les choses.
Donc les deux ne marchent plus bien, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça. Et elles sont complémentaires, elles s'entraident, du coup.
Votre parcours, les uns les autres. Ah, Angélique, d'où tu viens?
Moi, je viens de Dreux, en Eure-et-Loire. Bah, si, on peut commencer comme ça.
Oui, oui, tout à fait.
Et bien après, j'ai fait des études universitaires. J'ai un master d'art du spectacle et de lettres. Et puis, j'ai fini mes études à Lisbonne. Et puis, quand je suis revenue en France, j'ai intégré la direction d'une culture, d'une commune dans laquelle je vivais. Et puis, il y a un peu plus d'un an, j'ai rencontré Vanessa et j'ai intégré la compagnie.
Parce qu'elle avait besoin d'un booker.
Voilà.
Vanessa, alors.
Donc, moi, je suis un peu plus vieille qu'Angélique, donc ça serait trop long à tout raconter.
C'est mais... toi qui perds la tête ou les jambes?
Ouais, c'est moi. Moi, c'est la tête. Et puis, je vais m'égarer.
Bon, ok.
Non, mais je suis comédienne depuis pas mal d'années et maintenant, je me tourne de plus en plus vers la mise en scène. Et pendant 10 ans, j'ai beaucoup travaillé en théâtre de rue. Donc aussi en échasse et en marionnette géante.
C'est quoi? C'est la fatigue, un changement de vie ou alors carrément un nouveau désir de voilà, modifier un petit peu son parcours
Metteuse en scène, ouais. Tu veux dire bah en fait, j'ai eu que des changements de vie parce que finalement, entre les échasses, le théâtre, la marionnette géante, c'est un nouveau virage, oui. Ouais. Mais c'était pas prémédité, c'est juste que j'ai goûté et que ça me plaît vachement et que j'ai envie d'en faire plus maintenant.
Vas-y.
Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un conservatoire de région, de théâtre au départ. Et puis après, je me suis inscrit à Paris, dans une école à Paris. Voilà, l'école Florent. Et puis.
Le
cours Florent, voilà.
Oh
c'est
là
ça,
là.
Le cours Florent.
Ça se connaît même ici.
Bah oui, voilà. C'est, voilà. Et. Donc, voilà.
Si c'est un truc sur un coin d'un CV, oui, bon, voilà.
Oui, c'est ça. Tu mets ça.
C'est un truc qui s'appelait Florent.
Et donc du coup, bah, là-dessus, je me suis fait pas mal de réseaux. Et puis après, j'ai travaillé assez vite. Donc,
directement comme metteur en scène?
Alors pas du tout. Non, en tant que comédien. Ouais. Metteur en scène, c'est venu très tard. Si, à l'école Florent, j'avais fait une mise en scène catastrophique sur Lars Noren. Je ne sais même plus le titre de la pièce, mais c'était ma première expérience. Enfin, voilà, en troisième année, on avait ça. Voilà, on devait faire une mise en scène. Mais là, ma première mise en scène, ce serait celle-là. Ce serait Ernest. Ouais. Avant, j'ai travaillé en tant que comédien en permanence. Ouais. Ouais, ouais. Puis, je me suis fait un peu mes armes comme ça. Hein. En bossant aussi bien dans la rue que sur scène, voilà, j'ai fait aussi des échasses, voilà, j'ai roulé ma bosse quoi.
Et enfin, excuse-moi,
Agnès. Moi, j'ai toujours fait du théâtre, mais plutôt en amateur pendant très longtemps. J'ai fait des études de théâtre aussi et j'étais 10 ans libraire, tout en continuant à travailler sur scène, à essayer de la mise en scène, à essayer de jouer, etc. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de devenir professionnelle du spectacle, avec tout ce que ça représente. Et je me suis tournée essentiellement vers la marionnette. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies, à la fois en tant que manipulatrice, mais aussi en tant que fabricante, auteure, interprète, etc. Et puis, j'avais envie de retourner à la scène sans objet, ou en tout cas sans cette distance, pour retrouver aussi le plaisir de ce contact direct avec un public et puis avec un partenaire. Et le texte d'Ernest est arrivé sur ces entrefaites. Et donc, on a tenté cette aventure du duo avec la compagnie Arbre et Vanessa, notamment. Et voilà, donc c'est cette rencontre qu'on a voulu travailler pendant 2 ans. Donc c'est un spectacle que l'on destine à la salle, à l'extérieur, dans des lieux alternatifs. Il y a un tout petit peu de marionnettes, il y a aussi tout ce travail, on a travaillé à partir du théâtre masqué. Donc on a mis en fait tous nos savoir-faire, toutes nos pratiques ensemble, et puis on a avancé par rapport au texte, parce que ça correspondait aussi à nos rencontres en fait.
Alors ce texte a été à peine évoqué tout à l'heure comme presque un teasing. D'où vient-il ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour l'adapter ?
Mais en fait, c'est un texte écrit par Ahmed Madani, qui est auteur et aussi metteur en scène et qui a une compagnie à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Voilà. Et au départ, c'est Agnès, hein, c'est toi, qui a trouvé le texte. Voilà, qui a trouvé ce texte-là et qui me l'a fait lire.
Dans ta librairie ?
Non, dans une autre, parce que j'ai forcément la fâcheuse tendance à fouiner partout dès que j'en vois une. Donc non, je crois pas.
Et donc je l'ai lu, et puis effectivement ce texte m'a touché par ces deux personnages, effectivement, avec leur vie, leur histoire, leur rituel de, voilà, et puis leur relation aussi, leur rapport entre ces deux femmes qui est quand même assez universel dans cette petite mesquinerie, dans ces rapports aussi. Voilà, elles s'aiment et en même temps
elles peuvent pas supporter.
Oui, c'est ça, elles se haïssent aussi, elles sont dans un rapport un peu voilà, compliqué. Et du coup, on l'a présenté à Vanessa, hein, et toi aussi t'étais...
Ah oui, moi je suis tombée sous le charme de ce texte. Donc j'ai poussé très fort Christophe à...
Ouais, c'est ça. Après, on s'en est reparlé plus tard, d'ailleurs. Mm. On a mis du temps, on s'est dit, bon, bah, on le fera comme un projet qui... voilà, dans un tiroir. Et puis, on s'est décidé, je ne sais plus comment, hein, pour un repas bien arrosé, je pense que c'est ça. On s'est dit, on le fait.
Ok, je vais le faire.
C'est parti, on le fait.
Alors, vous êtes quand même 3 en capacité à pouvoir le mettre en scène, mais c'est toi qui le fais. Comment ouais.
Moi, je sais répondre à ça.
Ah ouais, ouais.
En fait, moi, je me rappelle comment c'est né cette histoire. Effectivement, c'était autour d'un repas. Et je disais que j'en avais marre de porter tout le temps les projets. Et parce qu'en tant que metteuse en scène et comédienne et initiatrice de projets, voilà, j'ai de la compagnie. J'ai tendance à m'en mettre beaucoup, beaucoup sur les épaules. Et je disais, je rêve d'un spectacle où je suis juste comédienne. Et voilà.
C'est vrai. Ouais. Et c'est parti comme ça. Je dis, bah écoute, je te fais la mise en scène. Ok. Moi, j'ai besoin de faire une mise en scène, d'un nouveau défi, en fait. Voilà, donc.
Alors vous parliez du conflit entre deux femmes, des choses que moi je ne maîtriserai pas tout le temps. Peut-être j'en ai à côté de moi. Voilà, les relations masculines sont parfois beaucoup plus rapides, radicales.
Non, parce que là c'est un peu plutôt une histoire de couple en fait. Hein. C'est pas tant le fait qu'elle soit femme, qu'elle se chamaille tout le temps. C'est plus le quotidien, la routine.
L'enfermement, le fait de vieillir ensemble aussi, ce que ça signifie. Elles étaient partenaires dans le cirque, donc elles travaillent, elles sont tout le temps, constamment, pour rester en vie, à se remémorer tout ce qu'elles ont fait, qui elles ont été, parce que c'est ça qui les maintient dans leur vie, tout simplement. C'était ça qui était intéressant de travailler, c'était comment est-ce que le temps passe, comment on travaille sur la mémoire, comment on rattrape l'autre, même si il nous insupporte. Donc c'est plus ce rapport de couple du quotidien qu'on a voulu, qu'on a expérimenté. Donc,
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, en fait.
Ouais, elles se haïssent, mais se soutiennent.
Ouais, c'est quand il y en a une qui disparaît, enfin voilà, il y a tout ce processus. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que c'est un spectacle qui, au départ, était destiné à un jeune public. Mais nous, on pense que tout le monde va y trouver ou peut y trouver un écho à sa propre vie, au rapport à celui ou celle qui l'accompagne. Voilà, on a ouvert ça à du tout public.
Alors voilà pour les relations, on va dire, l'objet social qui est créé par cette pièce. Je le redis, l'enfermement, ça, c'est autre chose encore. Qu'est-ce que vous avez voulu... est-ce que déjà ça fait partie du texte, cet enfermement?
Oui, le fait qu'elle vive dans une armoire, c'est pas anodin non plus. C'est une mise au placard, il y a quelque chose dans ce...
Alors ça, c'est pour la symbolique, mais à vivre théoriquement, enfin, on finit un peu claustro dans une situation comme ça, avoir séquestré, il y a un peu tout ça. Et l'enfermement aussi, donc la mise au placard, c'est parce qu'on est des rebuts, des...
Parce qu'on les dit inutiles, ce sont des artistes qui, à partir d'un certain âge, ne sont plus capables, entre guillemets, ou en tout cas qu'on juge peut-être plus capables de remplir leur mission. Et en fait, ce qui les sauve, c'est leur imaginaire. Et ce texte, il porte. Enfin, moi, je trouve qu'elles luttent contre l'enfermement avec leur imaginaire. Oui. C'est pas seulement le souvenir, c'est aussi comment est-ce que j'embellis le quotidien avec la moindre petite chose, avec le moindre objet, avec l'autre que j'essaye de redécouvrir, alors qu'on m'oublie aussi à l'extérieur et que l'extérieur ne vient plus à nous. Donc il y a tout ce processus.
Oui, parce que ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que dans la symbolique, il y a la poussière qui tombe en permanence sur elle. La poussière est en train de les ensevelir petit à petit. Et du coup, l'utilité... La notion de l'utilité est très importante dans cette pièce, parce qu'elle se rassure l'une et l'autre par l'utilité de balayer cette poussière. C'est d'évacuer la poussière en permanence pour qu'elle ne remplisse pas trop leur espace. Et la notion d'utilité dans la vie, effectivement, nos rapports avec la société actuelle, c'est d'être utile. C'est-à-dire que dès qu'on est en inutilité de quelque chose, on n'existe plus. Donc voilà, il y a aussi cet écho-là dans cette... En fait, c'est une vision de la société, pas seulement de nos anciens, je pense de la vie de tous les citoyens. C'est-à-dire que où est-ce qu'on se place dans cette vie? Où est-ce qu'on est? Voilà.
Tiens, la poussière qui tombe, donc c'est que l'environnement clos dans lequel elle se trouve est en train de lui-même péricliter. Lequel des deux tombe avant?
Il faut venir voir ce soir. Il ne faut pas regarder le match de foot.
Voilà.
Il faut venir voir la pièce.
Voilà.
Non, mais c'est quand même... voilà ce parallèle, encore une fois très métaphorique, entre un environnement qui est plus du tout sécurisant pour personne. Enfin, ça fait partie en tout cas des pensées qu'ont les gens aujourd'hui en France, ailleurs dans le monde aussi. Une base qui s'effrite, et puis à l'intérieur on est aussi plus très utile en fait.
Ouais, mais il y a toujours la vie. C'est une pièce où la vie est plus que tout. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est debout et on reste debout. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dans son écriture aussi, c'est pareil. Ces deux femmes, il y en a une qui perd les jambes, l'autre perd la tête, mais elles sont debout, quoi qu'il arrive. Et elles sont là l'une pour l'autre. Et voilà,
Comment on fait pour vivre debout sans jambes?
Eh bien, on a quelqu'un qui aide à relever.
On a des accroches.
Moi, je la relève souvent pendant le spectacle. Mm. Et elle me donne mes gouttes pour pas perdre la mémoire.
Ah, il y a de la médicamentisation.
Oui, oui.
La médication, merci.
Ouais, il y a tout ça.
Écoutez, c'est en tout cas très... Enfin voilà, moi j'ai rarement eu un désir aussi prononcé de voir voilà, quelque chose là qui est une proposition sociale en tout cas qui est étonnante. Mmh. Et avec la problématique de l'enfermement, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement à la radio, sur les ondes de RDOA, comme la médication d'ailleurs, qui sont deux choses qui vont souvent de pair. Et donc voilà, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment bien. J'espère que vous le portez partout. Qui vous commande ce genre de spectacle? Ou comment le vendez-vous, Angélique?
Comment on le vend? On va à la rencontre de programmateurs et on essaye de se faire connaître.
Est-ce que tu choisis des thématiques, des lieux où ça serait adapté sur ce qu'on vient de dire?
C'est une possibilité aussi de choisir, oui. Mais voilà, on va à la rencontre de programmateurs surtout et on essaye de se faire connaître et voilà.
Voilà, il n'y a pas une démarche.
Alors après, dire que là, Ernest, c'est le tout début de son existence. Ah. Là, on est dans nos premières. Il est encore tout frais, ce spectacle.
Et moi, j'ai une petite question. Donc, vous venez de Gisors. Vous pouvez repréciser?
Alors non, on
ne
vient pas de Gisors. La compagnie vient de l'Eure-et-Loire.
Oui, l'Eure-et-Loire.
Du côté de Dreux.
D'accord. Et moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est au niveau, pour vous faire des représentations, est-ce que c'est facile? Vous trouvez facilement des salles, des lieux pour jouer sans forcément avoir un cachet ou
on est vraiment dans le off du off du off. C'est-à-dire que là, pour
comment
l'instant,
ça se passe, là-bas
on le fait au chapeau, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun moyen pour le faire. C'est juste la bonne volonté de tout le monde. Et quelques petits moyens, mais personnels. C'est-à-dire que vraiment, ce spectacle, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on le fait, on sait qu'on n'aura pas d'argent, mais on s'en fout, on le fait. Quoi. Mmh. On peut pas se limiter à ne pas avoir d'argent. On se débrouillera. Quoi qu'il arrive, on se débrouillera. C'est un peu comme ces deux personnages. On restera debout. On fera.
Et du coup, par chez vous, pour trouver des lieux pour montrer vos spectacles, est-ce que c'est...
C'est du réseau. Et puis, on a quand même quelqu'un qui s'en occupe, qui a bien voulu s'en occuper pour l'instant pour le vendre. Alors, on ne sait pas si Monique Brissier qui a accepté aussi. Alors, elle qui est indépendante, qui est une amie. Et voilà, on a un spectacle, on aimerait bien un petit peu il faut qu'on le diffuse, il faut qu'on le fasse connaître. Est-ce que toi tu as des petits moyens? Et c'est vraiment par réseau, c'est-à-dire qu'on se débrouille
par
comme
réseau,
ça. Ouais. Isoline qui est une amie d'Agnès, c'est pareil, elle travaille dans les décos de théâtre, les décos de cinéma, pardon. Et elle filme pas mal des choses. Elle se dit, mais moi j'aimerais bien vous faire un petit teaser, elle est venue nous voir sur une représentation et puis elle a filmé et puis elle travaille dessus là pour l'instant. On aura peut-être une petite vidéo et voilà. Et on se débrouille que comme ça, que par des amis qui sont dans la partie. C'est une sorte de mutualisation.
Est-ce que vous avez écouté un petit peu le débat là ce matin? Est-ce que par chez vous c'est un peu les mêmes problématiques?
C'est les mêmes problématiques, c'est beaucoup moins bien organisé que dans la Drôme selon moi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de système D. Il y a un circuit, t'y es ou t'y es pas. Si t'y es pas, tu galères vraiment. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de festivals comme ici, de lieux alternatifs, d'endroits. On est proche de Paris où il y a tellement, tellement d'offres.
Il paraît que c'est assez terrible de pouvoir se produire à Paris, pouvoir se montrer.
On a laissé tomber.
Vous avez laissé tomber?
Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Pour louer une salle, il faut 20 000 euros.
Ah ouais, carrément, pour pouvoir...
Parce qu'il faut de la presse et tout, minimum, ouais. D'accord. Non, non. Du coup, on réfléchit à tout ça, nous aussi, très fortement, en fait. Dans mon village, dans l'Eure-et-Loire, on est en train de monter un festival.
Oui.
Voilà.
Qui s'appelle comment?
Ici, qui s'appelle le festival Derrière les Fagots. Et donc, la première édition va avoir lieu le 3 et 4 septembre. Donc là, avec Angélique, on regarde.
Festival
on prend des
idées, de théâtre ou
de spectacle vivant? Il y aura spectacle aussi vivant. Un peu de musique, de la magie, du conte. Et voilà, ce qui est par contre excitant, c'est qu'il y a tout à faire. Parce que le département de l'Eure-et-Loire, c'est vraiment un département sinistré à plein de niveaux.
Ouais.
Il est dans le nord de la région centre, il est oublié de la région centre parce que vraiment excentré. Il n'est pas à Paris, c'est un espèce de no man's land où les élus, c'est la Beauce quoi. Hein.
On met 5 moissonneuses batteuses de fond.
C'est ça,
tout, quoi.
Voilà. La culture elle est là, et donc c'est ça la culture.
C'est
les moissonneuses batteuses et les pesticides. Donc on n'est pas sur le même territoire. Ce qui est chouette, c'est que de plus en plus il y a des gens qui arrivent et qui sont porteurs comme ça d'envie, de projets. Et ça commence à bouger aussi. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il y a tout à faire.
Ouais, mais ça rejoint ce que tu disais au début, c'est-à-dire d'être sur tous les fronts en
ouais,
même temps.
Voilà.
Voilà, on se produit, on est comédien, on se met en scène. Mmh. Et puis maintenant, on va être organisateur des événements
festival.
Pour pouvoir se mettre en avant. Ce qui est le cas, on le répète, de Exquise Festival, qui est porté par une compagnie, Offrini Théâtre. Mmh. C'est quelque chose, tu disais, d'excitant, mais en même temps qui est complètement
fatigant,
épuisant, ouais.
et dur au point de vue de la reconnaissance même.
C'est hyper dur.
Ouais,
c'est hyper dur. Ouais, c'est pour ça qu'on réfléchit et qu'aussi Ernest, ou comment l'oublier, contrairement aux autres spectacles de la compagnie, il est autonome. Christophe et Agnès, ils ont acheté du matériel et on peut le jouer partout et ça, c'est carrément confortable. Et c'est surtout hyper, ça nous permet une grande liberté, mais il n'y a pas d'argent en contrepartie. En fait, je ne sais pas, parce que c'est un temps énorme de rechercher des subventions.
Comment vous faites pour acheter du matériel sans argent ?
Non, c'est parce que j'en avais un peu de côté. Effectivement, j'en avais un peu de côté, et du coup, j'ai investi un petit peu sur du matos. Enfin, en même temps, c'est pas du...
Il y a 8 projecteurs,
non plus...
hein.
Oui, c'est ça.
Il faut quand même les acheter.
Oui.
Après, on a aussi la chance, parallèlement, de continuer à travailler sur d'autres projets, à tourner. On a tous d'autres créations en cours.
Vous avez un statut qui
tourne. On a l'intermittence, on est tous intermittents, qui permet, mine de rien, de faire des choix, en fait. Donc on a fait le choix d'investir essentiellement sur ce spectacle, sur les 2 ans qui viennent. En tout cas... dans un objectif commun. Et voilà, mais après, c'est possible sur un spectacle. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut ensuite se permettre, parce que c'est important aussi que chacun soit payé, ne serait-ce qu'un minimum, dès qu'il y a une représentation, parce que ça représente un nombre d'heures de travail. Pardon ?
Est-ce que vous mangez ?
Peu, mais on survit.
Ils sont tous maigres.
On est tous devenus végétariens, parce que, ça. Non, mais au-delà de ça. Voilà, après, c'est des questions de choix. Donc effectivement, il y a des moments où ça pose vraiment question de savoir quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on défend, quelle est la qualité qu'on veut porter. Ça c'est toutes les interrogations qu'on a quasiment au quotidien et dès qu'on met en place une rencontre artistique, quelle qu'elle soit.
Voilà, et puis vous avez rappelé quelque chose qui est une vraie réalité, c'est que très souvent les compagnies cherchent elles-mêmes des subventions pour pouvoir créer avant même que les organisateurs eux-mêmes subventionnés puissent les faire jouer. Ce qui rejoint un petit peu le débat de ce matin et une des conclusions qui avait été émise, ou hypothèse en tout cas, et que je partage, j'ai envie de redire maintenant, c'est que je ne pense pas que ce soit aux artistes de pâtir de modifications sociétales, et bien aux organisateurs de trouver des nouvelles solutions, et au public de prendre une partie de cette chose-là. Voilà.
C'est-à-dire que ceux qui font tourner la culture, selon moi, aujourd'hui, c'est les programmateurs, c'est les organisateurs, c'est eux, les seigneurs. Je les vois comme ça, qu'il faut courtiser et voilà. Alors, ils ont leurs propres contraintes, leurs propres bases budgétaires, etc. Alors, leurs propres contraintes de temps. Ils sont ultra sollicités, ok. Mais c'est eux les artistes, c'est-à-dire c'est eux les rois. On a l'image de l'artiste qui fait des caprices et tout ça. Mais en fait, c'est plus ça. Nous, maintenant, on est les artisans, les fourmis qui essayons de cravacher. Ouais, c'est ça. Et puis, eux, ils se baladent, le nez au vent. Ils font Avignon, tout ça. On les courtoise, on les sollicite.
Vous avez une carte.
Ouais, c'est ça. Oui, je verrai si je viens. Peut-être. Et puis, ils ne viennent pas. Voilà. Ça s'est un peu renversé. Enfin, je ne sais pas c'était avant, mais en tout cas...
C'est ce qui se passe maintenant, ouais. Alors, Ernest, on l'a compris, est un spectacle qui est encore dans les 50 avant, en sortie de mise en scène, hein, en test aussi, et donc prêt à, en même temps aussi, partir sur les routes.
Oui.
Allez, un petit peu d'autopromotion. Comment on vous trouve déjà toute la compagnie, hein, Arbre Compagnie, et puis ce spectacle. Angélique.
J'attends la question.
Ok. Alors on a un site internet. Arbre Compagnie.
Comment on nous trouve ? D'accord. On a un site internet effectivement que j'ai créé. Alors www.arbrecompagnie.com. Et sinon on a une adresse mail aussi arbrecompagnie@yahoo.fr. Et on lâche le numéro.
On lâche le numéro. Ouais, vas-y, fais péter le 06.
Alors. Vous pouvez nous joindre au 06 46 13 63 85. Voilà.
Vous allez jouer à Barnave, non?
Ah ouais,
vous avez des choses de prévues dans le Diwa?
Oui,
on va pas se quitter comme ça. Hein,
on est tous tombés amoureux de la Drôme, en fait. On est...
donc on va... vous allez abandonner Dreux et cette zone.
Oui, la
Beauce.
Et... Voilà. Bon. Et donc
on n'a pas encore trop de compagnie dans le coin, ça va.
On va revenir au mois d'août. Alors,
jamais assez, peut-être.
Le 3 août, à Barnave, à 20h30, au Temple. Et puis le 20 août, à 20h30, à Borrières, au camping. Voilà. Et entre-temps, eh ben, on visitera la région pour trouver une maison.
Ah, avis, avis, avis. Là,
pour parler par exemple du temple de Barnave, mais comme ici les quelques lieux qui accueillent aujourd'hui les spectacles de Exquise Festival sont souvent des lieux totalement abandonnés. Et il n'est pas rare dans le coin, en tout cas, quand tu parlais de volonté, Vanessa, voilà, que ces lieux partent justement à des compagnies. Le temple de Barnave a été entièrement repris par une compagnie de cirque qui l'a modifié. Voilà, on peut faire du trapèze ballant dedans parce qu'ils ont mis ce matériel-là à l'intérieur et donc il ressemble que d'extérieur à un temple. Et ça, c'est des... Voilà, il y a le temple de Saillant qui a eu la même destinée, le temple d'Aurel. Enfin, dans le coin, voilà, il y a... Notamment ces structures-là qui étaient un peu abandonnées, qui ont eu ces modifications.
La récupération de la culture protestante.
Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est les protestants en premier qui ont lâché. Mais bon, il y a une église, par exemple, à Minglon, qui est devenue une grosse salle aussi. Voilà. Bon, bref.
Moi, c'est devenu ma maison, en fait, le temple à Charins.
Ah oui?
Oui, c'est vrai.
On poursuit sur vos dates un peu, vous voulez en sortir quelques-unes encore?
Eh bien, il y a le festival.
Le festival derrière les fagots, dans lequel on va jouer, le 3 et 4 septembre.
Et puis après, on a d'autres dates, mais c'est sur c'est en projet, c'est-à-dire que sur Vernouillet, effectivement.
Au mois d'avril, c'est un peu plus loin là, hein, dans le 28.
Là, on aura quelques représentations pour l'instant. Mm. Ouais.
On vous remercie tous les quatre.
Bah, merci à vous.
Merci.
Merci à vous, et puis merci au festival Esquisse, voilà.
De rien. Et rendez-vous tout à l'heure à 20h30 dans le chapiteau pour retrouver Ernest.
Ou comment l'oublier.
Avec plaisir.
Et on le redit avec à la fois du théâtre, mais aussi plein d'autres techniques circassiennes.
Modeste, hein, modeste. Hein.
Bon, d'accord.
Parce qu'elles sont vieilles, elles ne peuvent pas faire grand-chose.
Comment dit
De l'amour et de la passion.
Non, mais je voulais conclure sur un truc trash. Des montreurs d'ours et autres saltimbanques.
Ah oui.
Voilà.
Ah ouais, c'est ça.
Merci, petite pause musicale et à tout à l'heure avec la suite. On va bien voir qui on trouve.
La couleur du monde sur mon corps, un caractère à des kilomètres à la ronde. Préfère dire que me taire. Maintenant plus rien ne m'étonne. Aucun humain sur cette terre, on n'a rien fait pour personne, ne mérite l'air pur de l'air. On paiera tous en même temps, même si c'est pas de la faute à toi. Je veux voir les connards devant, il faudra pas louper ça. Tu peux chialer maintenant. Fini ton verre, on y va. Allez, on va prendre les devants. On va pas rester comme ça, non. Je porte le drapeau du monde, simplement dire que nous sommes frères. Qu'à des kilomètres à la ronde, ils ont posé des barrières. Que toutes les couleurs du monde sont dans les yeux de la terre. Il faut pas perdre une seconde, j'en ai assez. Leur frontière. On paiera tous en même temps, mais c'est pas de la faute à toi. Je vois les connards devant, il faudra pas manquer ça. Tu peux chialer maintenant, fini ton verre, on y va. Alors on va prendre les devants, on va pas rester comme ça. Non, non, non. Mentir. la couleur du monde sur ton corps un caractère. Laisse les fachos une seconde, laisse-les baiser leur mère. Ils iront creuser leur tombe, on ira pisser derrière. On ne peut pas plaire à tout le monde, surtout pas, surtout pas, surtout pas au cul du maire. Les couleurs du monde sur nos corps. On porte les couleurs du monde sur nos corps. On porte les couleurs du monde sur nos corps. Un univers.